En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Bonjour, il pèse en moyenne 1400 grammes et comporte quelques 100 milliards de neurones. Vous l'avez compris, il s'agit de notre cerveau. Le cerveau, cerbère de notre mémoire, est bien loin d'avoir livré tous ses secrets. Et quand cette mémoire nous joue des tours, c'est tout un travail d'enquête que mènent les scientifiques pour en découvrir les origines et trouver les remèdes. L'Académie des sciences a réalisé le 3 juin 2008 une séance complète consacrée à notre mémoire, faisant intervenir académiciens et éminents scientifiques pour faire le point sur les nouvelles connaissances dans ce domaine. Nous vous proposons d'écouter dans quelques instants Serge Laroche, directeur de recherche au laboratoire de neurobiologie de l'apprentissage de la mémoire et de la communication au CNRS. Serge Laroche évoque les dernières avancées en matière de mécanismes cellulaires et moléculaires dans la mémoire à long terme. Stanislas Dehaene, quant à lui, occupe la chaire de psychologie cognitive expérimentale au Collège de France et appartient également à l'Académie des sciences. Il nous parle de l'inscription du langage parlé et écrit dans le cerveau en développement. Après la mémoire en construction du jeune enfant, Francis Eustache, docteur en psychologie, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, évoque pour nous les pathologies de la dégénérescence de la mémoire chez les personnes âgées. Enfin, le dernier intervenant, Bernard Le Chevalier, ancien chef de service de neurologie au CHU de Caen, membre de l'Académie nationale de médecine, nous dit tout sur une pathologie rare et originale, l'ictus amnésique idiopathique, en d'autres termes un état de crise chez un patient qui devient totalement amnésique alors qu'il ne présentait aucun trouble jusqu'à présent. Mais tout de suite, laissons la place à Jean-Pierre Changeux, neurologue, membre de l'Académie des sciences. Il préside cette séance en compagnie de Bernard Le Chevalier. Il évoque en guise d'introduction les bases physico-chimiques élémentaires des fonctions cérébrales supérieures. On l'écoute.
Quelques mots d'introduction qui seront des généralités pour créer un contexte à cette réflexion sur la mémoire. Et dans cette séance commune à l'Académie des sciences et à l'Académie de médecine, nous allons réfléchir sur les bases neurales de la mémoire et se rappeler que le cerveau de l'homme se compose de plusieurs dizaines de milliards de neurones et approximativement au moins 1 million de milliards de contacts entre ces cellules nerveuses qui sont des contacts synaptiques dans le cortex cérébral. Nous disposons donc d'un organe d'une extrême complexité et il va falloir essayer d'élucider de manière simple des mécanismes engagés dans les processus de mémoire. Les composantes de notre cerveau, vous les connaissez tous, ce sont les cellules nerveuses, les neurones et leurs ramifications, leurs contacts entre cellules nerveuses qui sont les synapses et les communications chimiques entre ces cellules nerveuses au niveau de la synapse et électriques au niveau des axones qui relient les corps cellulaires entre eux. Il s'agit donc de réfléchir dans le cadre de ce que l'on pourrait appeler, avec Bachelard, un matérialisme instruit, c'est-à-dire comprendre les bases physico-chimiques élémentaires de ces fonctions cérébrales supérieures. Pour cela, évidemment, nous ne devons pas verser dans un réductionnisme simple et simpliste et se rappeler, et je pense que c'est un point essentiel si nous voulons comprendre les processus de mémoire dans toute leur généralité, que le cerveau de l'homme est en fait la synthèse de multiples évolutions. D'abord l'évolution des espèces au niveau génétique, et dans ce contexte, il est bon de se rappeler que le cerveau de l'homme est issu de cerveaux de primates évolués au cours des quelques dernières millions d'années, environ entre 5 et 7, ce qui veut dire qu'il y a peu de changements génétiques, mais néanmoins essentiels, qui font que nous avons un cerveau différent de celui du singe. Ensuite, nous avons une évolution ontogénétique qui se produit à partir de la fécondation de l'œuf, qui conduit à la genèse du cerveau de l'enfant, puis du cerveau de l'adulte. Et au cours de ce développement ontogénétique, les connexions entre neurones s'établissent et il faut savoir qu'à la naissance, environ 50% des synapses du cerveau adulte restent à établir, ce qui veut dire que notre cerveau est en interaction profonde avec l'environnement dès la naissance de l'enfant. Et j'ai ici montré que ce développement ontogénétique va donc se poursuivre par la formation des contacts entre cellules nerveuses. Et celle-ci ne va pas se faire, je dirais, en une seule fois, mais de manière progressive, par vagues successives qui sont suivies de reflux, en quelque sorte, c'est-à-dire des avancées avec une diversité maximale suivies de sélection et d'élimination de contacts synaptiques. Un modèle de stabilisation sélective donc de synapses qui se produit de manière postnatale et dont les bases semblent quand même relativement bien établies, puisqu'on peut mesurer une chute du nombre net de synapses lors de la fin de la maturation du cerveau de l'enfant au moment de la puberté. Donc une évolution au niveau génétique avec, je dirais, des traces de mémoire à longue durée qui constituent en quelque sorte les fondements du cerveau de l'homme, une évolution qui laisse des traces de longue durée pour l'adulte au cours du développement et évidemment chez l'adulte des processus de changement d'efficacité synaptique beaucoup plus rapides qui sont ceux de la dynamique de la pensée et des temps psychologiques. Donc voilà déjà au moins trois échelles de temps pour les processus de mémorisation et de mise en mémoire de la relation entre l'individu et le monde extérieur, et en particulier entre l'individu et le monde social et culturel, étant donné qu'une des grandes caractéristiques du cerveau de l'homme, c'est précisément de pouvoir déposer des traces de mémoire à l'extérieur de son cerveau et de pouvoir les incorporer à l'intérieur de son cerveau au cours de son développement et même chez l'adulte. Donc à cette dynamique de la pensée dans les dizaines, centaines de millisecondes s'ajoute en quelque sorte une évolution sociale et culturelle sur des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Donc nous avons à réaliser cette complexité des processus de mise en mémoire à la fois dans notre génome et dans notre cerveau qui vont être l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, il faut bien se rendre compte que même si les fondements de l'activité de notre cerveau reposent sur des processus moléculaires et cellulaire, il va de soi que l'on ne va pas rendre compte des états de conscience et de la vie sociale à ce niveau d'organisation, mais que notre cerveau est en quelque sorte la résultante de l'emboîtement de niveaux d'organisation qui vont donc de la molécule au neurone, du neurone au circuit, des circuits entre eux pour constituer cet organe que nous avons et qui nous permet d'interagir avec des confrères par la vie sociale et d'être conscient de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc nous aurons à prendre ces niveaux hiérarchiques et ce parallélisme dans la compréhension des processus de mémoire qui vont être débattus au cours de cet après-midi. Dernier point qui évidemment est un point qu'il faut méditer, c'est que le cerveau de l'homme n'est pas comme le cerveau du singe, même si celui-ci a une vie sociale élémentaire, un cerveau simplement individuel. C'est un cerveau social qui, comme je viens de le dire, est la synthèse de multiples processus évolutifs et des processus de mémoire enchâssés, qui possède une plasticité, une flexibilité donc dans son organisation fonctionnelle considérable, avec plusieurs niveaux de variabilité, je viens de le dire. Mais aussi, il faut se rendre compte que ce système nerveux central est spontanément actif, il est ouvert sur le monde, motivé, auto-organisé, et possède un accès à la conscience qui permet une communication inférentielle et une reconnaissance sociale partagée.
Jean-Pierre Changeux introduisait cette séance. Laissons sans plus tarder la place à Serge Laroche, directeur de recherche au laboratoire de neurobiologie de l'apprentissage, de la mémoire et de la communication au CNRS. Sa communication porte sur la mémoire à long terme, avec ses mécanismes cellulaires et moléculaires. On l'écoute.
Alors, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous présenter un bref panorama des avancées récentes sur les connaissances sur les mécanismes au niveau cellulaire et moléculaire de la mémoire. Et si j'ai un petit peu de temps à la fin, je voudrais vous montrer quelques données récentes aussi qui ont tendance à remettre en question un certain nombre de dogmes dans le domaine qui paraissaient pourtant relativement bien établis. Alors pour commencer, je voudrais simplement poser la question, comment conçoit-on aujourd'hui le support physique d'une trace mnésique dans notre cerveau ? En fait, c'est un champ de recherche qui n'est pas nouveau, comme l'a mentionné Jean-Pierre juste avant. Et l'idée générale de la plupart des modèles neurobiologiques aujourd'hui suppose en fait que nos souvenirs seraient encodés dans le cerveau sous forme de distribution d'activité cellulaire dans des vastes réseaux neuronaux de notre cerveau. Donc cette idée n'est pas nouvelle. Elle avait été évoquée pour la première fois par Donald Hebb dans les années 1940-1950, où Donald Hebb supposait qu'on avait des sortes d'assemblées cellulaires, de réseaux de neurones dans le cerveau qui étaient activés par l'information entrante et que l'activité électrique des neurones circule dans ces réseaux pour maintenir l'information. Et quand deux réseaux sont coactifs, ils se parlent entre eux et ceci permettrait de former des associations entre des stimuli ou entre des concepts. Alors pour schématiser cela, si on représente le cerveau sous la forme d'une matrice relativement simple avec un certain nombre d'entrées et de sorties, on imagine que les stimuli de l'environnement vont déclencher dans des régions spécifiques de notre cerveau des activités électriques de neurones, en particulier dans les voies sensorielles de traitement unimodalitaire de l'information, par exemple ici les aires visuelles, les aires olfactives, les aires tactiles, ce que vous voulez, et ces motifs d'activité cellulaire vont se propager progressivement vers des régions beaucoup plus associatives qui vont combiner ces différents éléments de l'information de manière à former un souvenir cohérent du tout de l'expérience sensorielle. Et on imagine aussi quelque part que ces activités cellulaires vont être capables de contrôler des unités responsables de commandes motrices qui peuvent être un acte moteur réel ou le langage s'il s'agit d'une conversation, etc., de manière à fournir des réponses adaptées en fonction de l'information à l'entrée du système. L'idée générale du support physique de la mémoire serait une sorte de réseau spatio-temporel, spatial parce qu'il s'agit évidemment de la distribution, de la localisation des neurones activés par l'information, et temporel parce que ces activités de neurones, ce n'est pas simplement d'émettre ou de ne pas émettre un potentiel d'action, mais il y a un rythme, il y a une mélodie dans ces émissions de potentiel d'action qui a une très forte valeur de codage de l'information. Et donc l'idée générale est qu'à chaque souvenir correspondrait un motif spatio-temporel unique d'activité dans un réseau neuronal. Alors, bien sûr, ces systèmes de codage sont sous le contrôle de tout un ensemble de systèmes dits neuromodulateurs qui vont contrôler l'efficacité du traitement et de l'encodage de cette information. Et en termes, on pourrait dire, psychologiques, ceci pourrait faire référence à des systèmes comme les systèmes attentionnels, les systèmes de stress, d'éveil, qui vont évidemment être très importants pour contrôler l'efficacité du codage de l'information et maintenir cette information dans les réseaux. Alors je voulais très rapidement vous présenter deux exemples pour vous montrer comment les électrophysiologistes peuvent chez l'animal essayer de traquer ces représentations dans le cerveau, et ceci donc grâce à des électrodes qui chez l'animal en comportement vont essayer de comprendre les motifs d'activité cellulaire qui se produisent lorsqu'un animal apprend une tâche. Et très rapidement, je voulais vous présenter ici les travaux de plusieurs équipes, en particulier celle de Joachim Foster et de Patricia Goldman-Rakic chez le singe, qui essayaient de comprendre le support d'une mémoire de travail, c'est-à-dire cette mémoire que l'on a qui nous permet de gérer l'information en ligne et de pouvoir répondre en fonction de cette information, qui flux d'informations qui nous arrive continuellement, sans pour autant laisser forcément une trace en mémoire à long terme. Eh bien, vous avez ici un exemple d'une situation où un singe est face à un écran d'ordinateur et il doit fixer cette petite point central. Et à un moment donné, un petit carré ou une forme quelconque va s'allumer à un endroit quelconque de l'écran. Et puis ce petit carré va s'éteindre, le singe doit toujours fixer la croix, et après donc un certain délai, la croix s'éteint et c'est un signal pour l'animal d'effectuer une réponse qui va être ici de faire un mouvement des yeux vers l'endroit où s'était préalablement allumé le petit carré. Donc il doit maintenir en mémoire cette information sur le carré et sa localisation. Et les enregistrements cellulaires ont montré dans ce type de situation que vous avez des décharges de neurones dans le cortex préfrontal, qui est une structure clé pour ce type de mémoire, qui vont décharger spécifiquement en fonction de l'information qui est présentée ici. Donc ce ne sera pas forcément les mêmes neurones si c'est un carré bleu ou si c'est un triangle orange. Et vous voyez ce neurone qui va être réactivé juste avant que l'animal ne fournisse la réponse. Donc c'est un neurone qui sait faire un appariement entre un stimulus qui a été présenté il y a quelque temps et la réponse qui va être donnée en fonction de ce que l'animal a gardé en mémoire. Et la découverte qui a été faite ici, c'était de montrer qu'il existait pendant le temps où ce souvenir était gardé en mémoire, des neurones spécifiques qu'on appelle des cellules de délai et qui déchargeaient donc spécifiquement pendant cette phase de délai entre la prise d'information et l'émission de la réponse. Et si, par des moyens quelconques, on perturbe cette activité cellulaire pendant le délai, irrémédiablement, cela conduira à un déficit de performance. Donc l'idée, c'était que cette activité cellulaire soutenue dans les réseaux du cortex préfrontal servait à maintenir l'information en mémoire de travail pendant un certain temps et préparer la réponse comportementale. Deuxième exemple que je voulais prendre très rapidement, c'est celui de la formation d'une mémoire de notre espace. Comment les neurones peuvent emmagasiner des souvenirs de nos environnements. Et une étape essentielle a été franchie dans les années 70, lorsque le groupe de John O'Keefe, à Londres, a découvert dans l'hippocampe, une structure clé du cerveau pour la formation de nombreuses formes de mémoire, des neurones très particuliers, qui sont des neurones, si on les enregistre lorsqu'un animal explore un environnement comme ceci, vont montrer, c'est ce qui est figuré ici, des décharges spécifiques d'un endroit particulier de l'environnement. Donc à chaque fois que l'animal passera, vous avez ici le plan de ce labyrinthe, passera ici, le neurone va se mettre à décharger, mais pas lorsque l'animal est ailleurs. Et en enregistrant plusieurs dizaines, on peut même maintenant aller jusqu'à quelques centaines de neurones en même temps, on peut voir que chaque neurone de l'hippocampe va décharger dans un endroit tout à fait spécifique du dispositif. Et l'idée qui est derrière cela est que ces neurones de l'hippocampe forment un réseau qui va permettre de coder les relations spatiales entre les événements remarquables de l'environnement, de manière à ce que l'animal puisse générer cette sorte de carte cognitive spatiale, cette représentation de son environnement, qui lui permet de se déplacer vers un but et de pouvoir se repérer dans un environnement particulier. Donc, l'ensemble de ces activités dynamiques de neurones, comme vous le voyez, et il y a de multiples exemples dans la littérature, montrent que dans certaines structures cérébrales, on va trouver des propriétés de codage extrêmement spécifiques de certains neurones qui vont jouer un rôle très important dans la formation de ces traces mnésiques dans le cerveau. Maintenant, on voit aussi l'énorme complexité de ce système, puisque par exemple, pour le codage de l'environnement spatial, on sait que de nombreux de neurones de l'hippocampe vont décharger pour un environnement donné, et qu'en même temps, ces neurones vont pouvoir décharger dans des endroits différents, dans des environnements différents. Donc on voit là encore l'extrême complexité de cette organisation. D'autre part, si on suppose qu'effectivement cette activité électrique de neurones dans des réseaux est le support physique d'une trace en mémoire, une des difficultés qui était connue depuis longtemps, c'est que ces activités neuronales, elles sont par nature évanescentes. Elles ne peuvent pas durer plus de quelques centaines de millisecondes, voire éventuellement quelques minutes. Donc ceci ne peut pas représenter totalement le support d'une mémoire à très long terme. Et en fait, depuis assez longtemps, l'idée était que probablement ces activités cellulaires dans des réseaux de neurones devaient déclencher des modifications au niveau cellulaire de manière à stocker ces représentations neuronales. Et cette idée avait été mise pour la première fois par Ramon y Cajal, vous voyez, dans les années 1890, où il avait proposé que l'apprentissage pourrait faciliter l'expansion ou la croissance de petites protubérances qu'il voyait en regardant l'anatomie des cerveaux. Et il a fallu attendre Sherrington quelques années plus tard pour qu'on les appelle des synapses. Donc des modifications de ces protubérances qui connectent les neurones entre eux. Et Donald Hebb, un demi-siècle plus tard, reprend cette idée dans son modèle d'activation d'assemblée cellulaire pour proposer que l'activité neuronale qui circule dans ces réseaux va progressivement modifier les synapses, les connexions entre neurones, de manière à stocker ces représentations dans le cerveau. Donc si je reprends le schéma de tout à l'heure, on a en fait une mémoire sous deux états. Un état actif au moment de l'encodage de l'information, représenté sous forme d'activité dynamique de neurones, et cette activité va déclencher dans les synapses des réseaux activés des modifications au niveau des connexions synaptiques de ces neurones. Alors il s'agit en fait ici, on pourrait dire d'une mémoire, une sorte de mémoire potentielle. Simplement, ces modifications, ces marqueurs du réseau vont permettre, au moment du rappel, de pouvoir réactiver tout ou partie du réseau initial, de manière à faire, on pourrait dire, ressurgir le souvenir à la conscience. Et donc, on a des transitions d'état entre une mémoire active, dynamique, une mémoire plus inactive, plus stable, sous forme de modification cellulaire, qui permet de réintroduire un état dynamique qui ensuite retournera à l'état stable. Alors que sait-on aujourd'hui des mécanismes ici qui permettent ces modifications cellulaires ? Eh bien en fait, il a fallu attendre les années 70 pour que cette hypothèse d'un changement d'une plasticité de nos connexions synaptiques trouve une validation expérimentale avec la découverte par Bliss et Lomo dans l'hippocampe d'une forme tout à fait extraordinaire de plasticité des synapses que l'on appelle la potentialisation à long terme ou LTP pour ses initiales. Et en fait, ces auteurs étudiaient donc la transmission synaptique dans l'hippocampe. Et la découverte extraordinaire, c'est de montrer que si on donne, vous avez les petites flèches ici, des trains de stimulation assez rapides de quelques centaines de millisecondes sur une voie nerveuse, on va augmenter l'efficacité de la transmission de ces synapses, un peu comme un robinet qu'on ouvre plus. Et ce qui était vraiment surprenant, c'est la durée de ce phénomène. Une fois que les stimulations de quelques dizaines de millisecondes sont passées, les synapses restent modifiées pour des périodes de temps extrêmement considérables. Et je crois que le record mondial à l'heure actuelle a été de montrer chez le rat que de telles modifications, après quelques centaines de millisecondes d'activation, pouvaient durer jusqu'à un an, ce qui est déjà beaucoup pour la vie d'un rat. Simplement un exemple pour vous montrer la réalité de ce phénomène dans une situation d'apprentissage où ces auteurs ont, avec des peignes d'électrodes, enregistré des modifications d'efficacité synaptique. Plus c'est chaud, plus vous avez des augmentations de l'efficacité de la transmission synaptique. Et sans entrer dans les détails, une expérience qui montre qu'au cours d'un apprentissage, par rapport à des situations de contrôle, vous avez tout un ensemble de synapses qui sont modifiées de manière extrêmement durable. Donc, ce type de plasticité synaptique dont nos synapses dans le cerveau sont capables se produit réellement au cours d'un apprentissage et joue un rôle très important pour le stockage de l'information à long terme. Alors les mécanismes au niveau cellulaire, on sait que dans la plupart des voies qui sont dites modifiables dans le cerveau, et il n'y a pas seulement que dans l'hippocampe, hein, dans de nombreuses régions du cerveau, ce sont des voies qui utilisent essentiellement le glutamate comme neuromédiateur, et il y a plusieurs types de récepteurs qui sont impliqués dans la transmission sur ces voies nerveuses, en particulier des récepteurs que l'on appelle AMPA, qui sont importants pour la transmission synaptique d'un neurone à un autre. Et puis ces récepteurs ici, qu'on appelle NMDA, et qui, eux, sont spécifiquement impliqués dans ces phénomènes de plasticité des synapses. Donc le récepteur NMDA, c'est un ensemble de protéines, comme tous les récepteurs à la membrane. Et la propriété essentielle de ce récepteur est que son activité est dépendante du voltage. C'est-à-dire qu'il faut que le neurone soit suffisamment actif, dépasse un certain seuil d'activation, pour que ce récepteur entre en état actif. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un signal qui est envoyé au neurone, et ce signal, c'est un signal ionique qui consiste en une entrée de calcium. Et ceci va être l'élément déclencheur de tout un ensemble de mécanismes moléculaires qui vont permettre de modifier de manière extrêmement durable l'efficacité des connexions synaptiques. Donc le système, lorsque une synapse est activée, du glutamate est libéré à la synapse, il se fixe sur ses récepteurs AMPA, également sur le récepteur NMDA, mais ceux-ci sont inactifs, ceux-ci dans des conditions normales. Et en cas d'activation un peu plus intense, plus de récepteurs AMPA seront activés. La dépolarisation membranaire est plus importante. Ceci entraîne un déblocage ici d'un canal ionique par une sortie d'ion magnésium et un signal qui va rentrer dans le neurone, un signal calcique qui va déclencher la modification des synapses. Alors, une situation que l'on peut voir dans le domaine de l'apprentissage, on peut tester la mémoire spatiale de rongeurs que vous avez représentée ici dans une piscine, où la tâche pour l'animal est de retrouver une petite plateforme qui est dissimulée sous la surface de l'eau. Alors, on sait, par exemple, que si on fait des lésions de l'hippocampe ou si on bloque les récepteurs NMDA, par rapport à un animal qui, avec la répétition des essais, va mettre de moins en moins de temps à trouver l'emplacement de la plateforme, un animal avec des lésions de l'hippocampe ou un blocage de ses récepteurs ne va pas pouvoir maîtriser cette situation. Si on regarde les cartes de parcours au début de l'apprentissage, l'animal ne sait pas qu'il y a une plateforme, il a une carte très très longue, et vous voyez, en fin d'apprentissage, l'animal normal nage directement vers la plateforme, alors que l'animal lésé, ou avec les récepteurs NMDA inactivés, ne trouve pas la position de la plateforme. De même, un autre exemple, il s'agit ici de souris transgéniques, chez lesquelles les auteurs ont réalisé une invalidation spécifique du gène qui code une sous-unité du récepteur NMDA. Ceci abolit la plasticité synaptique uniquement dans une région du cerveau, une partie de l'hippocampe, et les animaux ont les mêmes déficits d'apprentissage spatial. Alors pourquoi des animaux qui n'ont plus cette capacité de plasticité synaptique ont-ils des déficits de mémoire spatiale? Eh bien, si je reprends tout à l'heure les cellules de Lieu dans l'hippocampe qui coderaient une représentation de l'espace, on peut voir chez ces animaux mutants, ici, par rapport aux témoins, qu'il n'y a pas perte totale de la capacité des neurones de l'hippocampe à décharger spécifiquement dans un endroit donné, mais le type de représentation qui peut être encodé est beaucoup plus lâche, beaucoup moins précis que chez un animal normal. Et en plus, il n'y a pas de stabilité à long terme de ces champs spatiaux des neurones de l'hippocampe. Donc en fait, quand le cerveau a perdu cette capacité de plasticité des synapses, l'animal a des déficits de mémoire spatiale parce qu'il est incapable de former une représentation neuronale stable de son environnement. Alors, les grandes étapes des mécanismes qui vont conduire à ces modifications extrêmement durables des synapses sont d'une grande complexité là encore, et je voulais juste signaler quelques étapes cruciales. Une première étape, donc après l'activation des récepteurs NMDA et l'entrée de calcium à la synapse, va être l'activation de tout un ensemble de cascades moléculaires, en particulier par des protéines qui sont des protéines kinases, c'est-à-dire des protéines qui sont capables de phosphoryler un certain nombre de substrats, et qui vont jouer un rôle fondamental dans le passage de cette plasticité qui est au départ labile, transitoire, vers une plasticité stable à long terme. Un exemple ici, vous avez une de ces kinases qui s'appelle l'alpha-calmodulin kinase 2, qui est fortement phosphorylée après un apprentissage ou l'induction de cette plasticité. Et cette protéine va subir une modification conformationnelle qui va libérer des sites de phosphorylation qui vont s'auto-phosphoryler et conduire à la phosphorylation, l'activation de substrats, dont des récepteurs de glutamate, en les rendant plus sensibles. Donc ceci va modifier durablement la sensibilité des récepteurs sur les synapses. Autre type de modifications qui ont été observées, ces modifications vont progressivement conduire à l'insertion de nouveaux récepteurs à la synapse. Donc une synapse va avoir plus de récepteurs et donc plus réactive une fois que cette plasticité a été induite, voire même un véritable remodelage morphologique des connexions synaptiques avec la possibilité de croissance de nouvelles connexions synaptiques qui n'existaient pas avant. Comme si donc, le fait d'apprendre, de mémoriser, de faciliter des circuits neuronaux pouvait d'une part modifier les synapses existantes en augmentant leur efficacité et d'autre part créer de nouvelles connexions synaptiques. Alors comment à très long terme ces modifications peuvent-elles être stabilisées? En fait, on savait depuis très longtemps qu'un mécanisme clé consiste en des régulations de certains gènes et la synthèse de nouvelles protéines. On le savait depuis longtemps parce que de nombreuses expériences avaient montré dès les années 60 que si on injecte des inhibiteurs de synthèse protéique à l'animal, l'animal peut apprendre, mais il ne pourra pas former une mémoire à long terme de ce qu'il vient d'apprendre. D'où l'idée que peut-être l'activité de ces circuits neuronaux pourrait modifier des programmes d'expression génique, modifier des synthèses de protéines qui permettraient de stabiliser à long terme ces modifications. Une des voies de signalisation dans les neurones qui est fortement impliquée dans ces mécanismes est la voie d'une kinase, qu'on appelle les MAP kinases. Et le mécanisme est le suivant. Lorsqu'elles sont phosphorylées après l'activation neuronale, elles vont activer certains substrats dans le noyau, en particulier des facteurs de transcription, tels que ce facteur de transcription Krebs ici. Et lorsque ces protéines sont phosphorylées, elles vont se fixer sur l'ADN, sur des promoteurs de gènes, sur des sites spécifiques, et déclencher des régulations de certains gènes dans les neurones. Comme dans beaucoup de systèmes cellulaires qui répondent à des stimulations par une modification des programmes d'expression génique, le système est relativement connu maintenant. Dans le cas des neurones ici, l'activation des récepteurs va donc, comme je l'ai dit, par tout un ensemble de kinases, modifier tout d'abord l'expression de certains gènes qu'on appelle des gènes immédiats précoces. Et juste quelques exemples ici vous montrent des activations de gènes par rapport aux témoins dans une région de l'hippocampe. Ici. Et ces activations de gènes, en particulier certains de ces gènes, vont pouvoir eux-mêmes se fixer sur d'autres promoteurs de gènes dits effecteurs et modifier leur expression de manière à créer des synthèses de protéines et donc modifier durablement l'efficacité des connexions synaptiques. Aujourd'hui, on ne connaît pas encore l'ensemble des mécanismes de régulation génique et de synthèse de protéines qui sont impliqués, mais beaucoup de recherches utilisant des approches de type génomique ou de protéomique qui essayent de comprendre les signatures protéiques des synapses essayent de découvrir ces réseaux de gènes et de protéines qui sont activés. Jusqu'à maintenant, sur près de 200 gènes qui ont été étudiés chez des souris mutantes, 165 présentent ce qu'on appelle un phénotype synaptique, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes de transmission synaptique, ce qui donne une probabilité d'environ 1000 gènes impliqués dans ces phénomènes de plasticité. Quand on regarde le protéome neuronal, on voit le nombre considérable de protéines impliquées qui sont toutes connectées dans des réseaux d'une extrême complexité. Et enfin, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur 48 des protéines qui ont été étudiées qui sont liées à ce récepteur NMDA, beaucoup entraînent des déficits de plasticité et d'apprentissage et aussi ont été associés à des maladies humaines, en particulier des formes de retard mental qui sont dues à des mutations génétiques de certains gènes qui codent ces protéines. Je vous remercie.
Après Serge Laroche, c'est au tour de Stanislas Dehaene de prendre la parole. Stanislas Dehaene occupe la chaire de psychologie cognitive expérimentale au Collège de France. Il est directeur du laboratoire UNICOG, unité mixte INSERM-CEA de neuroimagerie cognitive au service hospitalier Frédéric Joliot à Orsay. Stanislas Dehaene est également membre de l'Académie des sciences. Il évoque ici l'inscription du langage parlé et écrit dans le cerveau en développement. Stanislas Dehaene.
Lorsqu'on pense à la manière dont la mémoire façonne notre personnalité, on pense très souvent en premier lieu à ce que le psychologue appelle la mémoire épisodique, c'est-à-dire les souvenirs propres à chacun d'entre nous qui s'engrangent au fur et à mesure de l'histoire de l'individu, et c'est ce dont a parlé très largement Serge Laroche en connexion avec le système de l'hippocampe. Mais je voudrais vous parler aujourd'hui d'une autre manière dont notre histoire nous façonne, et peut-être de façon encore plus fondamentale et précoce au cours de la vie de l'individu, c'est l'inscription de ce qu'on pourrait appeler des mémoires culturelles, et en particulier celle du langage, au départ évidemment le langage parlé, ensuite le langage écrit, qui vont profondément modifier le cerveau de l'enfant et constituer, comme on va voir, des mémoires partiellement localisées, propres à une culture donnée. Ces recherches auxquelles j'associe immédiatement le nom de mon épouse, Ghislaine de Haen-Lamberts, qui est responsable de l'équipe développement au sein du laboratoire, sont rendues possibles parce que les outils d'imagerie cérébrale ont progressé d'une manière telle qu'il est possible maintenant de commencer à explorer le cerveau du tout petit enfant, que ce soit par des méthodes d'électroencéphalographie, avec la l'aide d'un petit casque à électrodes, ou plus récemment par le biais de méthodes d'IRM, d'imagerie par résonance magnétique, qui permettent au départ évidemment de voir l'anatomie du cerveau de l'enfant. Il faut savoir que même en ce qui concerne le plissement du cerveau de l'enfant, je vais vous montrer des images extrêmement récentes, jusqu'à très récemment, on ne connaissait pas bien l'organisation et surtout la trajectoire développementale du cerveau du très jeune enfant. On le connaissait sur la base uniquement d'études post-mortem. Et puis plus récemment, c'est l'organisation des faisceaux de connexion dans le cerveau du jeune enfant et surtout de l'activité cérébrale qui commence à se dévoiler puisque les machines deviennent suffisamment, je dirais, amicales pour que l'on puisse y confier de très jeunes enfants. Commençons donc par l'apprentissage du langage parlé. J'emprunte cette image à Jean-Pierre Changeux, la manière dont l'enfant Jésus ici apprend de sa mère peut-être le nom du mot lapin, dans la Vierge lapin. Eh bien, que connaît-on de l'état final de ce système chez l'adulte? On peut très facilement, en quelques minutes d'IRM fonctionnel, identifier un réseau d'air cérébral qui est très largement latéralisé à l'hémisphère gauche et qui s'intéresse à la représentation de la langue maternelle. Dans une expérience très simple avec Christophe Pallier au laboratoire, on présente une phrase très brève, quelques secondes, et lorsque cette phrase est en français, qui est la langue maternelle des sujets, vous voyez qu'elle active tout un chapelet de régions ici, qui implique également l'aire de Broca, mais qui sont très largement des régions du lobe temporal, du sillon temporal supérieur, alors que la présentation de phrases identiques, à l'exception du fait qu'elles sont produites dans une langue qui n'est pas comprise par le sujet, par exemple le coréen, eh bien, ne va pas conduire à l'activation de ces mêmes réseaux. Autrement dit, ces réseaux chez l'adulte sont des réseaux qui ont été façonnés de manière à représenter une langue parmi toutes les langues du monde possible. Ce même réseau va être observé chez tous les individus. Donc il a à la fois un caractère universel, mais en même temps il se spécialise par l'apprentissage d'une langue particulière. L'organisation de ce réseau commence à être étudiée et je vais simplement insister sur une propriété qui est son organisation hiérarchique, c'est-à-dire qu'il semble que ces différentes aires soient organisées sous forme d'un réseau dans lequel il y a des délais progressifs qui sont représentés ici par des couleurs, en sorte que si on présente une phrase brève, les régions les plus proches de l'aire auditive vont répondre immédiatement et plus on va s'éloigner de cette région donc sensorielle, plus les délais d'intégration vont augmenter à mesure que le cerveau intègre des éléments de plus en plus grands de la phrase, qu'il s'agisse du phonème, de la syllabe, du mot et probablement de la syntaxe et de la compréhension de l'ensemble d'une phrase ou même d'un texte. Donc des délais temporels qui montrent une organisation hiérarchique qui est commune en fait à la plupart des grands systèmes sensoriels et bien entendu la question se pose de son origine chez l'enfant. Je vais commencer par vous présenter des données anatomiques, ensuite des données de connexion et ensuite des données d'activation fonctionnelle chez le jeune enfant pour poser dans cette question de l'inscription du langage dans le cerveau. Les premières données concernent donc l'anatomie cérébrale. Qu'est-ce qui fait que ce réseau particulier dans le cortex temporal et frontal inférieur gauche est impliqué dans la gestion du langage? Dès les premières semaines de vie, mais en fait avant la naissance, on peut maintenant visualiser par IRM l'apparition des premiers sillons du cortex. Ce sont des images tout à fait extraordinaires qui ont été produites par Jessica Dubois en collaboration avec le groupe de UPI. Et vous voyez que chez les enfants prématurés à différents âges, on peut visualiser l'apparition successive des sillons. Et c'est ce sillon temporal ici que l'on voit se former vers 30 semaines qui joue un rôle essentiel dans la représentation des informations linguistiques. Eh bien, ces études de développement, ainsi qu'auparavant des études post-mortem, ont montré qu'il existe précocement une latéralisation qui permet de commencer à comprendre pourquoi c'est l'hémisphère gauche, plutôt que le droit, qui va, la plupart du temps, prendre en compte cette fonction de langage. Il semble, en fait, de façon un petit peu surprenante, que le plissement cortical commence de façon préférentielle dans l'hémisphère droit. Vous voyez qu'à âge identique, ici, les hémisphères droits sont plus plissés que les hémisphères gauche. Cette asymétrie, le lien entre cette asymétrie et la plasticité n'est pas encore bien compris, mais on sait par ailleurs que la surface de région tout à fait critique pour l'acquisition du langage va être plus importante dans certains cas dans l'hémisphère gauche, dans d'autres cas dans l'hémisphère droit. Et par exemple ici, le planum temporale, qui est une des régions impliquées dans l'apprentissage des phonèmes, a une surface plus importante dans l'hémisphère gauche que dans l'hémisphère droit. Les données sont encore très rares, mais elles commencent à s'accumuler pour montrer qu'on peut trouver certains gènes dont la transcription différentielle dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droit pourrait commencer à être mise en relation avec l'apparition de sillons préférentiels dans un hémisphère ou dans l'autre. Ici, le gène LMO4, semble-t-il, s'exprime de façon plus importante dans l'hémisphère droit que dans le gauche, spécifiquement dans l'espèce humaine. Alors, dès le troisième trimestre de gestation, donc, on voit apparaître ces asymétries, en même temps que l'audition devient fonctionnelle vers à peu près 6 mois et demi au cours de la grossesse. Et les structures donc, sont déjà en place dans l'hémisphère gauche pour commencer à recevoir ces entrées. En particulier, les sillons cérébraux sont d'ores et déjà asymétriques. De façon assez curieuse, et là encore, beaucoup de travaux sont à faire, la surface du sillon temporal supérieur, qui abrite ces représentations qui, chez l'adulte, sont spécialisées pour une langue, est en fait plus importante dans l'hémisphère droit, et ce extrêmement précocement chez le bébé de quelques mois. Donc les asymétries sont présentes, mais pourquoi sont-elles présentes dans une direction plutôt que dans une autre? Pourquoi une surface plus grande à droite va entraîner finalement une spécialisation linguistique pour la gauche? Ce sont des questions qui restent ouvertes pour l'avenir. Par contre, l'anatomie cérébrale nous donne peut-être une réponse plus facile et plus intéressante, dans la mesure où il est possible maintenant de voir les faisceaux de connexion, et pas seulement la surface des grands sillons dans le cerveau. Les faisceaux de connexion sont rendus visibles par une technique qui est familière ici à l'Académie, puisqu'elle a été inventée par Denis Le Bihan, c'est l'imagerie du tenseur de diffusion, qui permet de voir le mouvement brownien des molécules d'eau, et lorsque ce mouvement brownien est contraint par les fibres qui sont présentes dans la substance blanche cérébrale, eh bien on va observer en chaque point du cerveau un petit vecteur directionnel, et en connectant ces différents vecteurs de mouvement brownien, on va pouvoir observer des faisceaux de fibres qui parcourent la substance blanche cérébrale. Et ici, c'est une des premières images de haute résolution obtenues chez le tout petit enfant de quelques mois. Vous voyez qu'on voit très bien l'organisation du corps calleux qui relie les deux hémisphères, qui est déjà en place chez le très jeune enfant. La plupart de ces réseaux, en fait, s'avèrent être en place très précocement, même s'ils ne sont pas myélinisés. Il semble qu'il faille faire une distinction importante entre des faisceaux qui, n'étant pas myélinisés, vont être un petit peu plus lents, mais qui, malgré tout, sont déjà fonctionnels chez le petit enfant. Alors, les connexions qui vont nous intéresser dans le cas du langage sont les connexions qui relient le lobe temporal au lobe frontal, la région en particulier de Wernicke ici à l'arrière du lobe temporal avec la région dite de Broca dans la partie inférieure du lobe frontal. Et vous voyez que chez l'adulte, ces connexions sont hautement asymétriques. Le faisceau arché en particulier est particulièrement important dans l'hémisphère gauche par rapport à l'hémisphère droit, comme s'il y avait une sorte de voie privilégiée de transmission de l'information. Eh bien, le faisceau arché est détectable chez le tout jeune enfant de quelques mois, ainsi également que le faisceau inciné. Et en fait, ces faisceaux sont d'ores et déjà très significativement asymétriques. La symétrie est déjà présente en faveur de l'hémisphère gauche chez le nouveau-né, chez le nourrisson plutôt de 1 à 3 mois. Vous voyez qu'on observe des différences significatives à la fois dans le volume de ce sillon et dans ce qu'on appelle l'anisotropie fractionnelle, qui mesure en quelque sorte le degré d'organisation des faisceaux de ces sillons. Donc une très forte asymétrie, il suggère qu'il y a réellement un circuit privilégié dans l'hémisphère gauche pour l'acquisition du langage. Ce circuit est-il fonctionnel? C'est la troisième question. Est-ce qu'il y a déjà de l'activité localisée dans un circuit bien restreint chez le cerveau du tout-petit? Et avec mon épouse, nous avons eu la chance de produire ces premières images des réponses d'activation cérébrale chez l'enfant de quelques mois avec l'IRM fonctionnel. Vous voyez que lorsqu'on présente une phrase ou une petite histoire à un jeune enfant, eh bien on observe l'activation d'un réseau qui est en fait largement latéralisé à l'hémisphère gauche, en particulier au niveau du cortex temporal postérieur, et qui en fait recouvre très largement les régions qui sont observées chez l'adulte. Y compris, c'est intéressant, ce n'est pas seulement des activations qui sont confinées, vous le voyez, ce n'est pas seulement l'aire sensorielle, ce ne sont même pas des activations qui sont confinées au lobe temporal, mais même la partie inférieure du lobe frontal, la région dite de Broca, est déjà concernée par la perception du langage. Traditionnellement, dans un schéma qui date en fait du début du XXe siècle, on associe l'aire de Broca à la production du langage, mais on sait maintenant que ce modèle est tout à fait faux et que cette région intervient de façon tout à fait importante dans la compréhension du langage également. Et on voit qu'en fait, dès les toutes premières étapes, elle est déjà activée chez un bébé qui n'a pas commencé à babiller, chez un bébé qui bien entendu n'a pas commencé à produire de la parole ou à traiter la syntaxe du langage, mais le circuit semble déjà en quelque sorte en place pour commencer à traiter ces informations linguistiques. Et l'image la plus surprenante peut-être, c'est celle-ci, c'est une image tout à fait récente qui nous montre que ce réseau chez le bébé de quelques mois est déjà organisé de façon hiérarchique. Les hiérarchies que je vous présentais au départ sous forme de couleurs, une hiérarchie temporelle qui fait que ces régions ici répondent rapidement et à des fragments petits de la phrase, alors que progressivement, alors qu'on va vers l'avant du lobe temporal et le cortex frontal inférieur, on a des régions qui répondent plus lentement, et chez l'adulte à des éléments de plus en plus grands de la phrase, en particulier la syntaxe de la phrase dans ces régions plus antérieures du lobe temporal et dans le lobe frontal, eh bien, cette organisation temporelle, au moins, est déjà présente chez le bébé de quelques mois. Donc on voit ici très nettement que les régions proches de l'aire sensorielle répondent plus rapidement que les autres. Le modèle qui consisterait donc à dire que cette organisation provient de niveaux de traitement lexical, syntaxique de plus en plus élevés, clairement ce modèle chez le bébé ne tient pas. Le bébé n'a pas encore appris le lexique de sa langue maternelle, il n'a pas encore appris la syntaxe des phrases de sa langue maternelle, mais il semblerait que le traitement de ces informations, qui au départ sont informations évidemment acoustiques, est suffisamment organisé pour qu'il y ait une hiérarchie temporelle préorganisée qui en quelque sorte va venir filtrer ces informations et probablement faciliter l'acquisition du langage. L'acquisition du langage ne va pas se passer sous forme de l'inscription, de l'empreinte venant de l'extérieur d'un système dans un cerveau vierge. C'est au contraire un cerveau hautement organisé qui va permettre de structurer ces entrées. D'ailleurs, cette organisation hiérarchique que l'on voit ici sous forme d'activité fonctionnelle dans le cerveau du très jeune enfant, elle existe chez les autres primates sous forme d'une hiérarchie synaptique qui a été identifiée par des études anatomiques qui effectivement montre qu'il y a des connexions successives le long du lobe temporal en partant de l'aire auditive primaire. Et on peut donc penser que cette hiérarchie humaine, même si peut-être elle a des niveaux supérieurs dans l'espèce humaine, elle découle finalement d'une architecture qui est commune à l'ensemble des primates. Et on peut se poser la question de savoir s'il ne s'agit pas là, finalement, d'un précurseur de l'évolution du langage. Le fait que l'on puisse maintenant faire l'imagerie du cerveau des primates avec l'IRM fonctionnel va évidemment, j'espère, permettre de répondre à ces questions dans les prochaines années. Alors, se pose également la question d'une période critique pour ces apprentissages du langage. Le cerveau de l'enfant, vous voyez, est prêt, et en fait prêt de façon extrêmement précoce, dans les premiers mois de vie. Est-ce que cette période de plasticité qui permet d'apprendre le langage se ferme à un certain moment? Pour répondre à cette question, la méthode traditionnelle a été de s'intéresser au bilinguisme et au fait qu'évidemment, lorsqu'on apprend une seconde langue, on l'apprend plus ou moins tôt au cours de la vie. Eh bien, la recherche dans ce domaine suggère, c'est juste une diapositive pour illustrer de très nombreux travaux, que la première langue, ici c'est le français chez des sujets français, est apprise avec un réseau qui est extrêmement reproductif, je vous l'ai déjà montré, en particulier ce chapelet d'activation tout le long du sillon temporal supérieur, alors que ces activations sont beaucoup moins reproductibles et beaucoup plus variables d'une personne à l'autre pour ce qui est de la seconde langue. Par exemple, ici, la langue anglaise, chez des sujets de langue maternelle français. Vous voyez que selon les sujets, on va effectivement trouver des sujets qui ont des activations extrêmement similaires à celles de leur première langue. On va aussi trouver des sujets, par exemple ceux qui sont en rouge, ici le sujet B, qui ont des activations presque exclusivement dans l'hémisphère droit en réponse à une seconde langue. Vous voyez qu'il y a une variabilité beaucoup plus grande entre sujets, les différentes couleurs représentent des sujets différents ici, dans la seconde langue par rapport à la première langue. Autrement dit, il y aurait un circuit universel prédisposé très précocement à apprendre la langue maternelle. Ce circuit semble se fermer au bout d'un certain temps et l'apprentissage de la seconde langue va être beaucoup plus variable. En fait, cette variabilité a été mise en liaison avec l'âge d'acquisition, et dans les travaux de Kim et collaborateurs en particulier, il a été montré que si l'on prend des bilingues tardifs, la représentation de la première et de la deuxième langue correspond à des pics séparés dans l'espace, donc des régions bien séparées, alors que si l'on prend des bilingues précoces, il semble qu'il y ait un recouvrement beaucoup plus grand des circuits impliqués dans la première et dans la seconde langue. La seconde langue bénéficie, lorsqu'elle est apprise précocement, de ce circuit présent chez le très jeune enfant. Nous avions montré la même chose dans le lobe temporal lors de la compréhension du langage. La manière dont la période de plasticité se ferme n'est pas encore bien comprise, mais il semble que ce ne soit pas si précoce que ça. Il est assez intéressant de voir que le cerveau est organisé de façon précoce pour l'apprentissage de la langue, mais que probablement jusqu'à l'âge d'environ 10 ans, peut-être jusqu'au début de la puberté, ces apprentissages sont encore en grande partie réversibles. Et une information intéressante nous est fournie par cette expérience de Christophe Pallier qui a testé des enfants adoptés. Chez les enfants adoptés, on peut avoir une situation qui est tout à fait exceptionnelle sinon, qui consiste à apprendre une première langue, puis ensuite à ne plus devoir s'en servir du tout, puisque la famille d'accueil ne parle pas cette première langue, et l'enfant va donc être amené à apprendre une deuxième langue comme si c'était la première. Et ici, donc, ces enfants coréens adoptés par des familles françaises, testés lorsqu'ils étaient des jeunes adultes, semblent ne présenter plus aucune trace de leur première langue, qui est en réalité la langue coréenne. Vous voyez que lorsqu'on les teste à l'activation, à la présentation de phrases en français, ils présentent des activations qui sont extrêmement comparables à celles observées chez des sujets de langue maternelle française, et ça n'est pas présenté sur cette diapositive, mais lorsqu'on leur présentait des phrases en coréen, on ne retrouvait aucune trace particulière de la langue coréenne dans leur cerveau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a aucune, ça veut simplement dire qu'on n'a pas été capable de la détecter. Il est probable qu'il y ait des modifications synaptiques et probablement qu'il y a un réapprentissage possible de cette langue chez ces personnes, mais ça veut dire quand même qu'il y a une très grande réversibilité chez l'enfant jusqu'à l'âge d'environ 10 ans. Et les études du bilinguisme suggèrent que la puberté est une période tout à fait particulière où il y a une chute importante des capacités d'apprentissage d'une langue. De manière à ce que, comme nous le savons tous, lorsqu'on apprend une langue tardivement, eh bien, on détecte facilement une trace d'accent ou une trace d'erreur dans le domaine de la syntaxe. Donc, je clôt ici le chapitre sur l'apprentissage de la langue maternelle parlée, qui nous montre clairement un réseau structuré, préorganisé, capable pendant une période limitée d'un apprentissage rapide de la langue maternelle. Que se passe-t-il avec l'apprentissage de la lecture ? Eh bien, de façon assez surprenante, un phénomène assez similaire. Je dis que c'est surprenant parce que, autant pour ce qui est de l'apprentissage de la langue parlée, on peut imaginer qu'il y a eu une évolution du cerveau humain avec des circuits particuliers qui ont évolué pour cette fonction linguistique, autant dans le domaine de la lecture, c'est une invention culturelle extrêmement récente et il est clair qu'il n'y a pas pu avoir d'évolution spécifique pour la lecture. Pourtant, si on regarde dans le cerveau en train de lire, on trouve un réseau d'aire cérébrale qui est organisé de façon extrêmement reproductible. Je vais vous parler en particulier de cette région occipito-temporale ventrale gauche, qu'on appelle la région de la forme visuelle du mot, qui est étonnamment reproductible à travers toutes les cultures du monde, qui constitue donc un substrat cérébral de la lecture. Cette région joue un rôle particulier, et vous voyez qu'elle est relativement spécialisée. On peut identifier au sein de la face ventrale de l'hémisphère gauche, ici, une région qui répond aux mots écrits, plus qu'à n'importe quel autre stimulus visuel, par exemple les visages, les maisons ou les objets. Cette région s'inscrit dans une localisation bien reproductible et sa lésion, en cas d'accident vasculaire par exemple, va conduire à un syndrome d'alexie pure, c'est-à-dire que la personne va devenir incapable de reconnaître les mots écrits tout en restant dans une très large mesure capable de reconnaître des visages, des maisons ou des objets. Il y a donc une spécialisation cérébrale pour la lecture et on sait que cette région apprend à reconnaître les lettres et les mots dans une écriture donnée avec une forme d'invariance ou d'abstraction, si l'on veut, pour la forme particulière. Cette région va répondre aux mots écrits en minuscules ou en majuscules, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est ce caractère d'universalité de cette région. Donc il y a là encore universalité et diversité des cultures. On peut tester des personnes qui ont appris à lire en anglais ou avec un système alphabétique comme le français, des personnes qui ont appris à lire en chinois, des personnes qui ont appris à lire en japonais. Et dans cette méta-analyse de nos confrères, eh bien, vous voyez que les activations en particulier dans cette région occipito-temporale ventrale se retrouvent systématiquement au même point. Et cette organisation visage, mot, maison est tout à fait reproductible, même dans des cultures très différente de la nôtre. Et la source de variabilité, s'il y en a une, se situe peut-être plus probablement dans le caractère de la contribution de l'hémisphère droit, et que chez les Chinois, il y a une contribution un petit peu plus grande de l'hémisphère droit à la lecture. Mais dans l'hémisphère gauche, le circuit est étonnamment reproductible. En fait, dans ce système de coordonnées dont nous disposons grâce à Jean Talleyrac, eh bien, les coordonnées sont extraordinairement reproductibles à quelques millimètres près dans différentes cultures. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, en fait, il y a un système universel qui s'adapte à une culture particulière. Donc, ce système ne fait pas exactement le même traitement dans toutes les cultures. Il fait un traitement qui est particulier à l'orthographe qui a été apprise précocement à l'école par l'enfant. On le voit dans cette expérience due au groupe de Nancy Kanwisher avec Baker et collaborateurs, où on présente les mêmes stimuli. Vous voyez, toute la variété des stimuli qui a été testée ici, y compris des mots, ou plutôt des chaînes de caractères présentées donc dans notre alphabet et des chaînes de caractères présentées en alphabet hébraïque. Et vous voyez que, suivant qu'on teste des lecteurs de l'anglais ou des lecteurs de l'anglais et de l'hébreu, eh bien on va voir que la même région cérébrale ne va répondre qu'aux chaînes de caractères écrits, donc soit les mots, soit les chaînes de consonnes, mais pas au caractère hébraïque, alors que lorsque on teste une personne qui a effectivement appris à lire ces stimuli, eh bien, on observe une réponse tout à fait massive de la même région. Autrement dit, cette région s'est spécialisée pour un système d'écriture bien particulier, même si au même endroit chez tout le monde. Alors, nous avons pu observer exactement la même chose au laboratoire, en tout cas le même concept, si vous voulez, c'est-à-dire que si l'on compare des fausses lettres par rapport à des lettres que nous avons effectivement appris, nous testions ici des sujets français, et si l'on teste en plus la régularité de l'orthographe, on peut générer des stimuli qui sont soit des vrais mots, soit qui ressemblent à des mots français, soit qui progressivement perdent les statistiques particulières des conjonctions de lettres propres à l'écriture française, eh bien on s'aperçoit que cette région cérébrale, donc occipito-temporale ventrale gauche, est extrêmement sensible aux régularités statistiques qui ont été apprises du français. Je vais simplement conclure en essayant de vous expliquer en une minute, puisqu'il me reste très peu de temps, pourquoi il est possible d'avoir une telle organisation alors que le cerveau n'a pas évolué pour la lecture. Eh bien, ce qui se passe très probablement, c'est que ces régions ventrales de l'hémisphère gauche, qui existent déjà en fait dans le cerveau de tous les primates, sont des régions qui ont une architecture hiérarchique appropriée pour l'acquisition de formes simples, en particulier les formes des lettres. En réalité, si l'on regarde chez le singe, il y a déjà une organisation spécialisée avec certaines régions qui s'intéressent au visage, d'autres qui s'intéressent à des formes géométriques plus abstraites, et même ces formes géométriques qui ressemblent à celles de nos lettres sont déjà très utiles pour reconnaître les objets. Par exemple, l'occlusion d'un objet par un autre va créer une forme de jonction en T. Donc l'hypothèse que je fais ici, c'est que notre système culturel s'est adapté finalement à l'organisation cérébrale bien particulière qui est présente précocement dans le cerveau de tous les primates, et notre culture finalement a créé des objets, l'écriture, qui sont tout à fait adaptés à cette région cérébrale, en sorte qu'une partie d'entre elles peut se spécialiser. Je vais passer sur ces diapositives qui montraient simplement qu'il y a un caractère d'universalité même dans le choix de certaines formes des lettres dans différents systèmes d'écriture. Alors j'en viens à ma conclusion. Je crois qu'on commence à être capable de mesurer la manière dont le cerveau de l'enfant reçoit très précocement une empreinte culturelle de la langue et de la culture qui l'entoure. Et cet apprentissage, comme l'a dit très souvent Jean-Pierre Changeux, ne fonctionne pas sur un mode passif ou instructif qui verrait dans la mémoire de l'enfant un simple mécanisme d'absorption de son environnement. Le cerveau de l'enfant est en fait hautement structuré dès la naissance, et cette organisation précoce contraint fortement les apprentissages dont il est capable. On pourrait presque inverser la proposition. Je pense que c'est l'évolution culturelle, et en particulier on le voit bien dans le cas des systèmes de lecture, l'évolution d'un système d'écriture particulier qui est soumise aux contraintes de l'architecture cérébrale, au moins autant que l'architecture cérébrale de l'enfant est soumise à la culture dans laquelle il va se développer. Merci beaucoup.
Stanislas Dehaene évoquait la construction du cerveau chez l'enfant. Vous allez pouvoir maintenant entendre Francis Eustache sur la dégénérescence de la mémoire liée à la vieillesse. Francis Eustache est docteur en psychologie et directeur d'études à l'École pratique des hautes études, EPHE.
Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord remercier le professeur Changeux et le professeur Le Chevalier pour cette invitation. Donc, je vais vous parler des systèmes de mémoire et essentiellement de neuropsychologie comportementale. Alors, on distingue classiquement trois grandes époques dans cette neuropsychologie de la mémoire. Premièrement, ce qui a été parfois appelé l'âge d'or de la mémoire, c'est-à-dire la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, avec des patronymes illustres comme Ribot, Ebbinghaus, Claparède, Korsakov, Bergson. En fait, des auteurs à la fois physiologistes, philosophes pour certains, qui ont posé des questions que l'on traite toujours aujourd'hui, à savoir les systèmes de mémoire, les liens entre conscience et mémoire, qui sont des thèmes toujours extrêmement débattus de nos jours. La deuxième grande période, c'est schématiquement les années 1960-1970, avec une étude, cette fois-ci, dans des standards, on pourrait dire scientifiques, de la pathologie, avec le nom d'un malade qui est très connu, qui est le patient HM, et puis la psychologue, la neuropsychologue qui l'a accompagné pendant des décennies, qui est Brenda Milner, et ceci se passe à l'Institut neurologique de Montréal. Alors, c'est la période en fait des dissociations où ces auteurs vont montrer que chez ces patients amnésiques, eh bien, certains aspects de la mémoire sont perturbés, et puis au contraire, d'autres restent parfaitement fonctionnels. Et puis, les années plus proches de nous, c'est une volonté théorique de mettre en commun ces différentes dissociations en un tout cohérent. Et puis, c'est bien sûr l'apport très important qui vient d'être mentionné ici dans l'exposé de Stanislas Dehaene de l'imagerie cérébrale. Alors, schématiquement, la mémoire en neuropsychologie, comment on représente la mémoire en neuropsychologie ? La première grande idée qu'il va falloir bien sûr nuancer, c'est que cette mémoire est relativement indépendante des autres fonctions cognitives, comme le langage, la perception, etc. Et le constat que l'on fait chez les patients amnésiques, eh bien, c'est que ces patients qui ont des troubles très importants de la mémoire ont par ailleurs des capacités qui semblent normales de langage, d'intelligence, de praxie. Et c'est ce qu'écrivait Korsakov dans un texte très, très connu de la revue de philosophie. Le malade raisonne judicieusement, peut parfois causer avec esprit, mais il oublie presque instantanément ce qui vient de se passer. Deuxième grande idée, c'est que cette mémoire est formée d'un ensemble de systèmes relativement indépendants, sous-tendus par des structures cérébrales, là aussi au moins en partie différentes. Et donc, ces amnésiques ont des capacités de mémoire préservées, et Korsakov, là encore, dans le même texte, le montre remarquablement par ce fait d'observation. Donc, il s'agit de la visite, du médecin qui fait la visite dans l'hôpital. Il arrive qu'on rentre chez un malade pour la première fois, il tend la main, il dit bonjour. On s'en va et on revient 2-3 minutes après. Le malade ne dit plus bonjour. C'est le point, en fait, qui est le plus intéressant dans la phrase. Le malade ne dit plus bonjour. Et cependant, quand on lui demande s'il vous a vu, il répond négativement. Il répond négativement parce qu'il est amnésique. Il a oublié, mais pourtant, vous voyez que son comportement a changé. Et Korsakov théorise cette observation de la façon suivante. On peut apercevoir dans sa manière d'agir que la trace du souvenir d'avoir vu la personne est dans son âme et agit d'une manière ou d'une autre sur les manifestations de son activité intellectuelle. Donc c'est la naissance ici de la distinction entre une mémoire implicite qui agit sur notre comportement à notre insu et une mémoire explicite. Alors, deuxième grande période, c'est l'étude des syndromes amnésiques, en particulier des syndromes amnésiques bihippocampiques avec ce KHM, donc pour lequel il avait été effectué une lobectomie temporale bilatérale par le chirurgien William Scoville, lobectomie qui incluait donc l'hippocampe et l'amygdale. Donc cette opération avait été faite pour traiter une épilepsie pharmaco-résistante. Elle avait amélioré certes cette épilepsie. Les capacités intellectuelles et la personnalité étaient restées globalement inchangées, mais à partir de ce moment, le patient HM a développé une amnésie extrêmement importante et définitive. Alors, ce patient et d'autres ont donné lieu à des études très poussées en neuropsychologie qui ont conduit à de nombreuses distinctions, à de nombreuses dissociations, la plus classique étant une dissociation qui a déjà été évoquée entre une mémoire à court terme, donc qui reste préservée chez les patients atteints de syndrome amnésique, et une mémoire à long terme, donc définie comme un système mnésique permettant d'encoder, de stocker durablement et de restituer des informations, cette mémoire à long terme étant au contraire atteinte. Alors en fait, la suite de la neuropsychologie de la mémoire va être de définir encore, de morceler encore, d'une part, cette mémoire à court terme qui deviendra la mémoire de travail, et puis cette mémoire à long terme qui va être à son tour séparée en différents systèmes distincts. Alors, on voit ici sur ce petit dessin représenté une étude qui avait été faite avec le patient HM par Brenda Milner. Il s'agit ici d'un labyrinthe, vous voyez, qui est relativement simple. C'est une étoile à 5 branches. Et le but est de parcourir ce labyrinthe et avec un stylet. Ce qu'il ne faut pas, c'est toucher donc les bords du labyrinthe. Et vous voyez que la situation est plus complexe qu'il n'y paraît, parce que le patient ne voit sa main que dans un miroir. Donc ce qui complexifie bien entendu la tâche. Alors on voit les performances du patient, donc qui s'améliorent. Il y a de moins en moins d'erreurs par essai le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, pour arriver quasiment à des effets planchers le troisième jour. Donc ça, c'est l'effet d'apprentissage. Et ce qui est remarquable, bien entendu, c'est de mettre en relation cet apprentissage que l'on appelle aujourd'hui procédural avec les troubles de mémoire déclaratifs très importants d'HM, puisque à chaque fois qu'HM se retrouve devant ce dispositif, eh bien, il a l'impression de le découvrir pour la première fois. Donc ça conduit donc à la distinction entre mémoire déclarative et mémoire procédurale. Et la neuropsychologie de la mémoire, pendant ces 20 dernières années, va chercher comme ça à différencier différents systèmes. Et là, c'est un modèle qui est très, très utilisé par les neuropsychologues et les neuroscientifiques, qui a été proposé par Tölving et modifié au fil du temps, qui distingue 5 grands systèmes de mémoire, dont plusieurs ont déjà été illustrés dans les exposés précédents. Alors, récemment, nous avons essayé avec Béatrice Desgranges de représenter les choses d'une façon un petit peu différente, c'est-à-dire en retrouvant ici, vous voyez, les 3 systèmes de représentation à long terme, mémoire perceptive, mémoire sémantique, mémoire épisodique, la mémoire de travail et la mémoire procédurale, mais en insistant surtout sur leurs interrelations. Et en fait, ça va être le but de mon exposé, de vous parler de ces 3 systèmes de mémoire. Monsieur Le Chevalier parlera de la mémoire de travail et Béatrice Desgranges parlera également de la mémoire procédurale. Alors tout d'abord, quelques définitions Certaines, je vais les reprendre parce que déjà quelques concepts ont été définis dans les exposés précédents. La mémoire épisodique, c'est la mémoire, on pourrait dire au sens banal du terme, hein, c'est la mémoire des souvenirs qui permet de voyager mentalement dans le temps, de se représenter consciemment les événements passés et de les intégrer à un projet futur. C'est celle qui nous permet de revivre, d'avoir l'impression de revivre l'événement consciemment. Et c'est ce niveau de conscience autonoétique qui est proposé par Tölving pour qualifier en quelque sorte cette mémoire. Conscience autonoétique est un terme qui dérive de la phénoménologie de Husserl. Mémoire sémantique, c'est la connaissance des mots, des objets, des faits, des concepts, des connaissances générales qui sont cette fois-ci décontextualisées, y compris les connaissances générales sur soi-même. L'autobiographie repose en partie sur la mémoire sémantique. Puis enfin, les mémoires perceptives, qui sous-tendent notamment les effets d'amorçage perceptif, c'est-à-dire que le fait d'être en contact perceptif avec un objet, eh bien, fait qu'on va mieux reconnaître cet objet par la suite, y compris dans des environnements difficiles ou dans des situations où cette information est dégradée. Alors, l'amorçage perceptif, classiquement en neuropsychologie ou en psychologie expérimentale, on l'étudie par ce type de procédure où on va proposer dans un premier temps, vous voyez, des images d'objets. On ne va surtout pas orienter le sujet vers une tâche de mémoire, mais on va lui demander une tâche incidente. Par exemple, est-ce que ces objets sont plutôt orientés vers la droite ou vers la gauche ? Ensuite, il y a un intervalle de rétention qui est plus ou moins long. Là, il s'agit, dans l'expérience présente, d'une douzaine d'heures. Et ensuite, on va présenter à nouveau ces objets dans des temps relativement courts, c'est de l'ordre de 50 millisecondes, ça va varier selon les sujets. On va généralement faire des études extrêmement précises en tenant compte des temps de réaction des sujets. Et puis on va demander au sujet de dénommer ces différents objets. Et ce que l'on observe, c'est que quand les items ont été amorcés précédemment, eh bien ces items sont plus facilement, par exemple, dénommés que des items qui n'ont pas été présentés antérieurement. Alors, un exemple ici dans la maladie d'Alzheimer, juste également pour dire que les travaux de ces 10-15 dernières années portent certes sur les syndromes amnésiques, hein, qui ont été vraiment le point de départ de la neuropsychologie de la mémoire, mais de plus en plus sur des travaux qui portent sur des patients atteints de différentes maladies du système cérébral, hein, du cerveau, la maladie d'Alzheimer et puis d'autres maladies dont je dirai quelques mots par la suite. Et ce que l'on voit ici, donc sur la partie gauche, ce sont les résultats qui concernent l'amorçage perceptif, mais on voit qu'il n'y a pas de différence entre les sujets jeunes et les sujets âgés. Il y a une petite différence qui n'est pas significative chez les patients Alzheimer. Il y a toujours un effet qui est lié, bien sûr, à la sévérité de la maladie, mais il y a un respect, disons, de ces effets d'amorçage perceptif, y compris dans la maladie d'Alzheimer. Donc ce sont des systèmes de mémoire qui sont relativement résistants aux pathologies. Et puis au contraire ici, pour faire le pendant, j'ai montré une tâche classique de reconnaissance où cette fois-ci il y a un déficit très marqué pour les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Donc une différenciation très nette entre une mémoire implicite qui va être préservée ici et une mémoire explicite qui est perturbée. Alors, autre façon d'utiliser ces tâches d'amorçage, c'est de les appliquer cette fois-ci à l'étude de la mémoire sémantique, à la représentation des connaissances. Ça, c'est un travail qui a été fait dans l'unité où on a utilisé une tâche dite de décision lexicale. Vous voyez, la tâche qui est demandée ici, c'est de dire à chaque fois qu'un mot, qu'une chaîne de lettres plutôt est présentée, est-ce qu'il s'agit d'un vrai mot ou d'un non-mot ? Donc, il faut appuyer sur un bouton. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de regarder dans les conditions ici le lien sémantique qui existe ou non entre ce que l'on appelle l'amorce et la cible. Donc, vous voyez ici, il n'y a pas de lien sémantique évident, alors qu'au contraire, ici, il y a un lien d'attribution entre l'amorce et la cible. Donc, un éléphant a une trompe, et ici, un lien de coordination, c'est-à-dire que dans une représentation des concepts, le concept tigre et le concept lion se situent au même niveau de la hiérarchie des concepts. Alors, ce que l'on va étudier plus spécifiquement, c'est ce que l'on appelle l'effet d'amorçage sémantique, c'est-à-dire le temps qui est gagné en quelque sorte ici pour dire que le mot ici est réellement un mot de la langue, quand il est précédé ou non d'une amorce en lien avec la cible sur le plan sémantique. Alors, je vais juste vous présenter les résultats de façon schématique. avec d'une part ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est une étude à la fois transversale et longitudinale. Les patients ont été suivis pendant 18 mois. Et ce que l'on voit dans la relation d'attribution, hein, la relation d'attribution, c'est tigre, rayure, lion, crinière, etc. On voit progressivement, on voit en fait un déclin linéaire de ces attributs des concepts. Ici, c'est la ligne noire, ici, c'est l'effet d'amorçage pour les sujets témoins. Et on voit qu'il y a de moins en moins d'amorçage donc dans cette relation d'attribution pour les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et puis, il y a au contraire un phénomène assez surprenant, tout du moins au prime abord, c'est qu'il y a un effet d'amorçage, on observe un effet d'amorçage plus important chez les patients à un certain moment de l'évolution, en fait au tout début de l'évolution, ce qu'on a appelé ici un hyperamorçage, et puis progressivement, on a à nouveau un déclin des effets d'amorçage dans cette relation de coordination. Donc à ce moment ici, les choses se passent de la façon suivante. Si je reprends l'exemple tigre-lion, et donc le lion qui perd sa crinière, le tigre qui perd ses rayures. Ici, vous voyez qu'ici, les attributs des concepts ont tendance à se dégrader. Et à un moment donné, dans cette relation de coordination, eh bien, tout se passe comme si tigre qui amorce lion, eh bien, on était dans une situation où tigre amorce tigre. C'est-à-dire qu'on est en présence ici de concepts en partie dégradés qui vont provoquer ce que l'on appelle un effet d'amorçage de répétition. Ce qu'on a montré plus récemment, et je pense avec des implications intéressantes, c'est que cet effet d'hyperamorçage, il est encore exacerbé quand on utilise des concepts qui ont une forte connotation émotionnelle, du type, par exemple, vipère-cobra, pour prendre l'exemple qui est ici. Et donc, avec un poids à la fois important de l'émotion, on voit que ce traitement émotionnel est préservé ou relativement préservé au premier stade de la maladie d'Alzheimer, mais qui va pouvoir participer, dans certains cas, aux confusions sémantiques. Alors, je reviens au modèle ici et à la partie gauche qui m'intéresse plus particulièrement. Donc, j'ai parlé des mémoires perceptives, j'ai parlé de la mémoire sémantique, et je voudrais maintenant parler des relations complexes entre cette mémoire sémantique, donc la mémoire des concepts, la mémoire des connaissances, la mémoire du sens, en quelque sorte, et la mémoire épisodique, qui est la mémoire des souvenirs. Avec, je pense, en neuropsychologie, un article extrêmement important de ces 10 dernières années, peut-être le plus important de ces 10 dernières années, qui a été décliné en d'autres articles, et qui est dû à la neuropédiatre anglaise Farhaneh Varghakadem, qui a décrit dans un premier temps trois jeunes patients, puis d'autres ont été décrits notamment dans des papiers dans Brain les années suivantes, trois jeunes patients qui étaient atteints de lésions limitées à l'hippocampe. C'est un travail qui a été fait d'ailleurs en collaboration avec Mortimer Mishkin, qui vient d'être cité par Stanislas Dehaene. Ces enfants, donc, sur le plan clinique, avaient une amnésie entérograde, bien mise en évidence dans les tests de mémoire, avaient des troubles de la mémoire autobiographique très importants, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas capables de raconter des faits marquants de leur vie, ou même ce que font tous les enfants, ce qui s'était passé par exemple à l'école, les petites anecdotes qui peuvent se passer à l'école le jour même. Et à côté de cela, donc alors que ces lésions étaient pour certains enfants néonatales, et donc je pense que ce travail fait bien le pont avec tout ce qui a été expliqué dans l'exposé précédent par Stanislas Dehaene, et bien ces enfants avaient acquis un niveau de langage normal ou subnormal, des connaissances générales sur le monde, en géographie, en histoire, etc., et suivaient un cursus scolaire quasi normal. Donc ce résultat est intéressant. Premièrement, c'était la découverte d'un nouveau syndrome, parce que le syndrome amnésique de l'enfant, de façon étonnante, n'avait pas été décrit jusqu'à cette date. Et puis deuxièmement, vous voyez que sur le plan théorique, c'était un point extrêmement intéressant, parce que ce travail suggérait que l'on pouvait former de nouvelles connaissances sur le monde, y compris de novo, parce que là, il s'agissait d'enfants et pas simplement d'adultes, comme ça avait été montré auparavant, mais chez des adultes qui étaient devenus amnésiques à l'âge adulte, avec déjà tout un background, on pourrait dire, de connaissances sémantiques. Donc, ces travaux suggéraient donc qu'on était capable d'acquérir des connaissances sans souvenir. Alors, c'est un travail que nous avons repris de différentes façons, notamment en collaboration avec l'équipe d'Olivier Dulac à Paris, et où nous avons vu, nous, cette fois-ci, des enfants qui avaient des troubles de mémoire très importants, et nous n'avons pas simplement constaté que ces enfants apprenaient, mais nous avons accompagner en quelque sorte leur apprentissage de nouveaux concepts. Ici, c'est l'apprentissage d'un macareux, hein, qui est cet oiseau de la zone arctique. On a appris les différentes caractéristiques de cet oiseau, qu'il niche dans des terriers de lapins, etc., etc. Et tout ça en vérifiant que l'enfant n'avait absolument aucun souvenir du contexte où il avait appris ses nouvelles connaissances. Par exemple, où ça se passait, dans quel bureau, comment la personne qui lui avait appris ces nouveaux concepts était habillée, etc. Et donc, nous avons montré que malgré ses performances épisodiques extrêmement faibles, eh bien, l'enfant était capable, une enfant notamment, cette petite fillette de 7 ans qui avait des troubles très très importants, eh bien, était capable d'acquérir ces nouveaux concepts et leurs attributs. Alors, autre domaine pathologique extrêmement important à souligner, je vais juste parler de cette étude par manque de temps, mais qui est très important, c'est la démence sémantique, qui est une autre maladie du cortex cérébral beaucoup moins fréquente que la maladie d'Alzheimer, mais qui présente un intérêt théorique majeur, puisque dans cette pathologie, les patients présentent essentiellement des troubles sémantiques avec une perte progressive des concepts, que l'on voit très bien ici, comparativement à des patients atteints de maladie d'Alzheimer, des contrôles, et on voit que dans une tâche très simple de dénomination, vous voyez, de concepts pourtant très 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 usuels, eh bien, on voit une baisse drastique des capacités de dénomination. Et là, la question qui est posée, c'est quels sont les liens entre les mémoires perceptives et la mémoire épisodique, celle qui nous permet de former des souvenirs. Et là, il y a un résultat assez intéressant de l'équipe de John Hodges à Cambridge, qui nous montre qu'en reconnaissance, quand on montre des objets de ce type, eh bien, ces patients ont des capacités relativement bonnes quand on propose par la suite exactement le même objet. Par contre, si on modifie l'objet, ici on a à nouveau un téléphone, mais qui ne ressemble pas du tout au téléphone initial, eh bien, les performances sont très faibles. Et donc on voit la différence ici, donc chez les patients démence sémantique. Vous voyez, quand les objets sont perceptivement identiques, eh bien on a les mêmes performances que chez les contrôles, alors que quand les objets sont perceptivement différents, là on a des performances très affaiblies. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est plus la mémoire dans son ensemble qui est perturbée. Alors c'est donc un lien entre ces éléments perceptifs du modèle qui est présenté ici, et puis les éléments perceptifs qui sont contenus en quelque sorte dans le souvenir. Alors, la neuropsychologie, on pourrait dire, a du sens une fois qu'elle est validée par des travaux expérimentaux en psychologie expérimentale, et nous avons voulu en fait, en quelque sorte, reprendre ce travail, mais cette fois-ci dans un cadre plus expérimental, avec comme pour objectif d'évaluer le rôle de l'amorçage perceptif, tel que je l'ai présenté antérieurement, lors de la formation de nouveaux souvenirs épisodiques. Et en fait, ce que l'on a fait ici, c'est que dans un paradigme qui a été mis au point par un étudiant qui termine sa thèse, Pierre Gagnepin, on a en fait entremêlé un travail sur l'amorçage perceptif, où des stimuli étaient plus ou moins amorcés lors d'une phase d'étude initiale, et 24 heures après, vous voyez que c'est relativement long sur le plan de l'intervalle de rétention, eh bien, c'est la tâche d'amorçage proprement dite avait lieu dans un contexte particulier où on proposait différents sons et on a demandé ensuite une tâche de reconnaissance à ces personnes et on a montré qu'il y avait un lien très fort, c'est la dia suivante, et que cet amorçage n'est observé que pour les items qui sont encodés en mémoire épisodique, et que plus l'amorçage est important, et plus la proportion de souvenirs formés augmente. Donc, le message, en fait, c'est que les souvenirs épisodiques contiennent bien les représentations perceptives qui sous-tendent l'amorçage perceptif. Alors, juste la dernière diapo, je voulais insister, c'était vous dire que la mémoire, on étudie la composante antérograde, et puis on peut étudier, bien entendu, la composante rétrograde, c'est-à-dire la mémoire du passé lointain, qui nous permet comme ça de revenir jusqu'à, en fait, les premières années, jusqu'à la formation des premiers souvenirs, et d'interroger des patients avec des questionnaires extrêmement détaillés. Le dernier résultat que je vous montre donc, vient de ce questionnaire, avec en bleu les résultats donc, chez des sujets témoins. Donc on voit ici les 12 derniers mois, puis on remonte comme ça dans le passé. Et ce qui est intéressant à regarder, donc, c'est les performances en jaune, où on voit les performances de patients atteints de maladie d'Alzheimer, avec un pour faire le pont avec ma première diapo, ce qu'on appelle un gradient de Ribot, c'est-à-dire avec une relative préservation des souvenirs du passé lointain qui sont déjà sémantisés, donc un relatif respect des connaissances sémantisées chez ces patients. Et puis au contraire, dans la pathologie que j'ai évoquée, la démence sémantique, qui est dominée par les troubles cette fois-ci de la mémoire sémantique, eh bien on voit que le gradient est inversé et effectivement ici au détriment des souvenirs du passé lointain. Donc voilà ce que je voulais vous dire, donc vous montrer l'intérêt de l'approche en termes de système de mémoire, mais également l'importance d'étudier les relations entre ces systèmes, insister également sur les contenus changeants de cette mémoire, et puis les liens entre la mémoire, les émotions et la construction d'identité. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Le dernier intervenant qui clôture cette séance est le neurologue Bernard Lechevalier, membre de l'Académie nationale de médecine. Il évoque pour nous une pathologie particulière, l'ictus amnésique idiopathique, qui consiste en des périodes courtes de totale amnésie chez des individus que rien ne prédispose. On l'écoute.
Mesdames, messieurs, dans son remarquable livre consacré à son arrière-grand-père Paul Broca, le professeur Philippe Monod-Broca, qui nous a quittés récemment, rapporte une lettre de Paul Broca qui a été écrite en 1834. Paul Broca était un chirurgien connu. Il était allé opérer à domicile à Montreux en février. Il faisait très froid. C'est une opération très difficile. Il a passé les nuits blanches. Il est revenu dans une carriole non couverte. Il a pris ensuite un convoi, et il est arrivé juste à temps à la faculté de médecine de Paris pour faire son cours de pathologie chirurgicale à 7 heures. Et puis, au bout d'un certain temps, il a eu l'impression qu'il parlait avec Alexandre Dumas. Et il a cru qu'il rêvait, qu'il était en conversation avec Alexandre Dumas, et ça a duré un certain temps, et puis tout d'un coup, il s'est réveillé, et il s'est aperçu que les étudiants étaient sages, qu'ils ne riaient pas, qu'ils ne se moquaient pas du tout de lui. Et il a découvert qu'il était en train de traiter des fractures du rachis. Il a cru qu'il s'était vraiment endormi. Et quand le cours est terminé, il a demandé à son préparateur, à son assistant, comment cela s'est passé. Et l'assistant lui a dit, « Monsieur, ça s'est très bien passé. Vous avez fait, comme d'habitude, un cours tout à fait remarquable. » Et Broca termine sa lettre en disant, « Mes chers amis, je livre cette question à votre méditation et à votre sagacité psychologique. » Eh bien, je pense que c'est le premier cas d'ictus amnésique qui a été publié, celui de Broca. En effet, il est resté parfaitement conscient. Il a fait un cours qui était très bien fait, sans aucun trouble de mémoire, sans aucun trouble de l'élocution, mais il n'en avait absolument aucun souvenir. Il a cru, en revanche, c'est ce qui est assez étrange, qu'il était en conversation avec Alexandre Dumas. Et dans notre série de 142 cas qui est étudiée par l'équipe d'INSERM de Francis Eustache et Béatrice Desgranges, il y a deux cas identiques où le malade avait cru dormir. Cette affection a été décrite pour la première fois par des collègues lyonnais, M. Guyotat et Courgeon, en 1956. Elle a été reprise par Fischer et Adams, qui d'ailleurs, je ne sais pas, n'a pas cité le travail lyonnais. Mais Guyotat et Courgeon parlent d'ictus amnésique, ce qui est un excellent terme, alors que Fischer et Adams parlent de transient global amnésie, ce qui est un très mauvais terme, parce que, comme je vais vous le montrer, cette amnésie n'est pas une amnésie globale du tout. Et après tout ce que vous avez entendu là, vous allez vous y retrouver facilement dans la classification des amnésies. Pratiquement, elle ne touche que la mémoire épisodique. C'est une très importante amnésie, et ce qui est caractéristique, c'est que le patient pose toujours la même question. Quelquefois, il téléphone 50 fois de suite. Et puis, comme s'il n'avait pas téléphoné, il n'y a pas du tout d'anomalie neurologique, et cette amnésie survient brutalement. Elle dure quelques minutes à quelques heures, et tout se termine bien. Des auteurs à 90 ont cru bon, et ils ont eu raison, de décrire des critères pour bien savoir de quoi on parlait. Et ce qui est important, c'est cela, c'est ce qui est à la fin, là. Il faut exclure les patients qui ont eu des traumatismes récents ou des antécédents d'épilepsie. Et on pourrait ajouter à cela, il faut exclure également les patients qui ont pris certaines drogues. Car il y a eu un cas célèbre, mais ça n'était pas un ictus amnésique idiopathique, mais un ictus amnésique secondaire, après avoir pris des médicaments, un chirurgien stomatologiste qui a réussi une excellente opération stomatologique, et il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Et il a revu, au bout de quelques jours, la patiente qui avait été très bien opérée, et il était resté conscient pendant cette intervention, mais il n'en avait aucun souvenir. Il y a un autre point sur lequel je voulais insister, et justement qui fait référence à ce que nous avons entendu cet après-midi, c'est que la conscience est conservée avec l'identité personnelle. Cette notion d'identité personnelle a été décrite pour la première fois par celui qui a décrit les amnésies et la conscience, c'est-à-dire le médecin et philosophe anglais Locke. Et Locke, dans son énorme travail, avait défini cette notion, ce concept d'identité personnelle qu'il avait rattaché à la conscience plus qu'à l'amnésie. Alors l'amnésie est en rétrograde, elle est massive, et maintenant je vais vous montrer quels sont mes trois objectifs de ce que je vais vous parler. Premièrement, je voudrais vous parler de l'analyse des troubles cognitifs qui a été réalisée pendant l'ictus lui-même, grâce à une équipe de gardes très méritoires qui arrivait au CHU dès qu'on signalait un ictus amnésique. Mon deuxième but, c'est de voir, d'examiner avec vous la responsabilité des hippocampes. Et troisièmement, c'est de savoir quelle est la nature de et pourquoi est-ce que c'est précisément la localisation CA1, dans la terminologie de l'hippocampe, qui est atteinte dans cette maladie. Alors, les résultats des examens, premier objectif, quel est le profil cognitif de l'ictus amnésique pendant l'épisode? La conscience est parfaitement normale, l'attention est normale également, le langage, les praxis, les gnosis sont normales, seulement il y a une désorientation temporelle dans 87% des cas et une désorientation spatiale. En entendant Stanislas Dehaene tout à l'heure, je me disais que on répète à satiété depuis fort longtemps qu'on est bien orienté dans l'espace parce qu'on se souvient qu'on est venu par là, etc. Mais qu'en fait, un des rôles majeurs de l'hippocampe, c'est de se repérer dans... C'est grâce à l'hippocampe que l'on peut se repérer dans l'espace. Et c'est un argument de plus pour diriger les travaux vers des recherches sur l'hippocampe. Cette désorientation spatiale peut durer assez longtemps. Et il y a un malade, j'ai mis ici, de Jean Cambier, qui à cet égard est significatif. Pendant l'ictus amnésique, le malade est rentré chez lui. On a dit, il n'est pas désorienté. Oui, mais il est rentré dans l'appartement qu'il occupait 10 ans auparavant. Alors, maintenant, le gros trouble de l'ictus amnésique idiopathique, c'est la mémoire de travail. Et Béatrice Desgranges et Francis Eustache m'ont laissé le soin de vous en parler un petit peu. Bon, la mémoire de travail, c'est ce terme signifie actuellement la mémoire à court terme. C'est un synonyme. Et on admet que la mémoire de travail est indépendante de l'hippocampe, qu'elle est gérée par le lobe frontal, par le cortex frontal, par un dispositif qui s'appelle le central exécutif et qui a deux systèmes esclaves, la boucle audifonatoire et le calepin visuospatial. Un bon exemple de la mémoire de travail, bien que simpliste, c'est le numéro de téléphone qu'on regarde dans l'annuaire et qu'on garde dans notre cerveau jusqu'à temps qu'on aille téléphoner. Eh bien, pourquoi la boucle audifonatoire? C'est parce qu'on répète le numéro. Et pourquoi le calepin visuospatial? Parce qu'on le voit. Et voilà de quoi est fait la mémoire de travail, le central exécutif, cortex frontal et les deux systèmes esclaves. Mais Madeley, avec une grande finesse et sur des documents cliniques, a décrit une deuxième édition, pourrait-on dire, de cette mémoire de travail. Quelques années après, il a décrit le buffer épisodique. Qu'est-ce que c'est que le buffer épisodique? Eh bien, c'est un état intermédiaire, une sorte de purgatoire, si vous voulez, entre le central exécutif et la mémoire épisodique, qui, elle, est bien du long terme, avec ses deux composantes sémantiques et visuelles. Et dans ce buffer épisodique s'opère une sorte de synthèse, se créent des liens entre la mémoire de travail et la mémoire épisodique. Alors, pour apprécier cette mémoire de travail, notre équipe d'INSERM a mis au point une série de tests que je ne vais pas vous détailler parce qu'ils se seraient fastidieux et surtout parce qu'ils ont un point commun, ces tests-là, c'est qu'ils exploitent tous la possibilité que nous avons de lutter contre les automatismes. Voyez-vous, le Stroop consiste à lire des noms de couleurs écrites en couleurs différentes. Ça semble simple, mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. Quand vous voyez, quand vous lisez noir et que noir est écrit en jaune, c'est assez difficile, surtout quand il y a une liste de 40 comme ça. Et d'autres tests consistent à relier des points en reliant 1 sur 3. En somme, il faut toujours lutter contre des automatismes. Pour explorer la boucle audiphonatoire, on mémorise des consonnes que l'on fait entendre. Pour le calepin visuo-spatial, on mémorise des séquences visuo-spatiales. Eh bien, toutes ces explorations du court terme, autrement dit de la mémoire de travail, sont normales au cours de l'ictus amnésique idiopathique. Pour ce qui est du buffer épisodique, les choses sont un peu plus compliquées. Parce qu'il y a deux épreuves pour le mettre en évidence, associer plusieurs types d'informations, par exemple des informations verbales et des informations visuelles, un type d'information, une lettre qui doit venir recoiffer une figure de plus, une autre lettre, une figure en moins ou des figures en couleur. Et puis deuxièmement, on essaie d'estimer la quantité d'associations verbales ou visuospatiales que l'on peut retenir. Et là, autant les épreuves qui mettent en évidence la mémoire de travail sont normales, autant les épreuves qui explorent le buffer épisodique ne le sont pas, si bien qu'on peut conclure que dans l'ictus amnésique idiopathique, il y a un trouble entre l'articulation de la mémoire de travail et du buffer épisodique. Alors, je vais vous montrer maintenant ce tableau qui n'a rien d'inconnu pour vous, puisque vous avez entendu tout ça déjà. Commençons par le milieu, si vous voulez, la mémoire à long terme. Eh bien, dans l'ictus amnésique idiopathique, la mémoire à long terme est très atteinte. La mémoire épisodique à long terme est très atteinte. La mémoire épisodique est gérée par les hippocampes à droite et à gauche. Elle comprend la mémoire antérograde, c'est-à-dire d'apprendre au fur et à mesure, d'où les questions posées. La mémoire rétrograde est très atteinte et c'est véritablement sur la mémoire épisodique que le déficit porte. La mémoire sémantique, elle est un peu atteinte. Il y a un défaut de reconnaissance des photos pour les 10 dernières années. La mémoire procédurale que vous exposez, Béatrice Desgranges, elle n'est pas atteinte et l'amorçage, il est normal. Il y a d'autres symptômes qui figurent ici sur cet histogramme. Le malade se plaint souvent de céphalée, vous voyez, ou 40%, et dans la littérature un peu moins. Et il y a quelques observations qui ont signalé des ictus amnésiques idiopathiques après des violentes migraines, dont celle de M. Laplane. Des nausées, des vertiges, des accès de panique, des troubles visuels. Et puis, le profil psychologique. Le profil psychologique de ces patients a été étudié par M. Guyotat de Lyon et par ses élèves, Trier et Laurent, et c'est intéressant à considérer. Ce sont des personnes hyperactives, des personnes qui sont surmenées, qui sont très méticuleuses et qui sont très émotives et anxieuses. Et M. Guyotat a fait faire des Rorschach à ses patients et il a vu que les Rorschach étaient perturbés dans le sens de la régression affective et de l'anxiété. Bon, les facteurs déclenchants, le stress est un facteur déclenchant, l'effort, la douleur, les bains froids et l'activité sexuelle. Et très souvent, on retrouve, voilà ici pour notre statistique en pourcentage, et là dans la littérature, on retrouve souvent un même effort, par exemple un de mes voisins qui taillait toujours sa haie à la même heure et qui à chaque fois faisait un ictus amnésique, il continuait quand même, mais les efforts toujours les mêmes, c'est assez souvent... Bon, l'évolution, c'est une maladie bénigne qui n'excède pas 24 heures, qui laisse parfois des séquelles transitoires, mais il y a une amnésie lacunaire, c'est-à-dire de même que Broca ne se rappelait plus ce qu'il avait enseigné, le malade qui a fait un ictus amnésique ne se rappelle plus du contenu, il y a un trou noir. Et par contre, au point de vue de l'évolution lointaine, 19 patients avaient été suivis, voyez-vous, d'un à deux ans. L'évolution est globalement favorable. Quelquefois, des petits résidus, des petites séquelles. Mais faire un ictus amnésique n'est pas un élément péjoratif qui fait craindre une maladie d'Alzheimer, pas plus qu'un accident vasculaire cérébral. Alors maintenant, je voudrais arriver à la deuxième partie. À quoi est dû l'ictus amnésique? Ça reste un grand mystère, mais quand même, il y a des éléments de réponse. L'IRM de diffusion accuse l'hippocampe. Certes, la caméra à positon avait déjà montré qu'il y avait un hypométabolisme hippocampique dans quelques cas publiés avec quand même de beaucoup de discordance. Et les résultats sont beaucoup moins cohérents que l'IRM de diffusion, qui montre que dans 93 cas sur 176 patients, il y avait des hypersignaux hippocampiques dans la région CA1 de l'hippocampe, avec diminution du coefficient de diffusion apparent. Mais ce qui est étrange, c'est que ces anomalies sont un peu retardées. Voyez-vous, 24 à 72 heures, elles sont transitoires. L'anomalie siège dans le champ CA1, ce qu'on appelait autrefois le champ de sommaire, soit d'un seul côté, soit des deux côtés. L'anomalie de CA1 est-elle la cause ou la conséquence ? Bon, CA1 est une région exposée et fragile, et celui qui a montré ça précocement, c'est M. Delay, mon maître, avec M. Brion, qui est assis ici à un mètre de moi. Classiquement, pour qu'il y ait amnésie, il faut qu'il y ait atteinte des deux hippocampes. Et M. Stache et Mme Desgranges vous ont parlé du cas HM. On avait enlevé chirurgicalement les deux hippocampes pour épilepsie et le malade était amnésique. Mme Brun-Lamilner a examiné 200 patients qui n'avaient eu qu'une lésion d'un seul côté. D'un seul hippocampe. Et elle note qu'il n'y avait pas d'amnésie. Mais elle note aussi qu'elle a vu les patients avec quelques jours après l'opération. Par conséquent, on ne peut pas dire qu'entre l'intervention et puis l'examen, il n'y a pas eu un ictus, pas idiopathique, mais qu'il n'y a pas eu une période d'amnésie. D'un autre côté, cette étude faite, c'est une étude expérimentale, une injection d'artère. Elle, voilà ici l'hippocampe, corne d'amont, injection d'artère ici. Et vous voyez qu'il y a ici une zone fragile qui correspond aux deux territoires, ventral et dorsal, de l'hippocampe, montrant bien que c'est la région CA1 où surviennent les hypersignaux que nous avons signalés tout à l'heure. Et bien voilà le malade qui figure dans ma thèse. C'était un malade qui était hospitalisé chez M. Delay quand j'étais interne. Et donc cette femme avait fait un état de mal épileptique et elle est morte d'une embolie pulmonaire. Ici, une zone de nécrose. Il y a deux cas comme ça dans la littérature, il y a celui de Zola Morgan, mais là, ce sont des cas bilatéraux. Cette femme avait de telles lésions, droite aussi bien que gauche. Eh bien, je vous ai dit que c'était une région sensible. Je vais vous dire maintenant que c'est une région stratégique. Ça, c'est un dessin historique qui a été fait par M. Henri Gastaud de Marseille. Et là, c'est de Von Euler, c'est un dessin de Von Euler. Et vous voyez ici dans l'hippocampe les fibres qui sont transfixiantes et qui vont se diviser en deux, qui viennent du subiculum. Le subiculum est là, cette fibre elle est comme ça. Et vous voyez que ces fibres-là, les afférences de l'hippocampe, vont d'une part dans les cellules pyramidales CA1 et deuxièmement dans le gyrus denté. Eh bien, comme l'a montré M. De Haen, il y a un véritable circuit avec des fibres qui partent du gyrus denté et qui vont rejoindre les gros neurones ici. C'est ce qu'on appelle les fibres moussues. Et le troisième maillon, c'est une collatérale dite de Schaeffer, S, qui rejoint ici. Et il faut considérer ça, ce circuit-là, comme un circuit absolument vivant avec des modifications synaptiques du temps passé, comme on l'a montré récemment, pour les informations, c'est-à-dire les potentiels qui se déplacent. Et c'est véritablement là. Cette région CA1 est une région absolument stratégique et c'est bien dommage qu'elle soit si sensible puisque c'est là que, dans les ictus amnésiques idiopathiques, on a pu constater des hypersignaux. Alors la question, troisième question à laquelle je suis obligé, je vais essayer de répondre, quelle est la nature de ces signaux en CA1 ? Eh bien, on peut dire que ce sont des séquelles d'un processus complexe, car on a donné des explications à cette anomalie. Le stress, libération de glutamate, un effort entraînant une hypertension veineuse. Et des auteurs ont fait des phlébographies, en somme, intracrâniennes, et on montrait qu'il y avait une dilatation veineuse du côté de ces signaux. Les auteurs algériens, parce que ça a été montré en Algérie il y a quelques mois, quand j'ai fait cette présentation, m'ont dit « mais nous, on trouve toujours des troubles du rythme paroxystique chez ces malades ». Alors j'ai associé ça, bien que ce ne soit pas, c'est plutôt empirique, mais ça n'est pas scientifique au sens strict du terme. Mais il faut noter que ces patients Quand on dit que ce sont des vasculaires, ça ne veut rien dire. Ils ne sont pas, ils n'ont aucune anomalie des Doppler. Ils ne font pas plus volontiers des accidents que d'autres. C'est pour ça que de dire que c'est vasculaire, c'est un cache-misère, ça ne veut rien dire du tout. Bon, alors maintenant, voyons quelque chose de nouveau. Ce sont les canaux potassiques. Il y a deux nouvelles maladies qui sont apparues, si j'ose dire ainsi, sur le marché récemment. C'est l'encéphalite limbique paranéoplasique, qu'on sait qui est dû à des phénomènes immunologiques contre des canaux potassiques de l'hippocampe. Et puis deuxièmement, l'encéphalite limbique non paranéoplasique, qui est une nouvelle catégorie de maladies et qui recouvre trois maladies, la maladie de Morvan, qui est vraiment une maladie très rare, la paramyotonie et l'encéphalite limbique. Et cette encéphalite limbique, elle est due au dépôt d'anticorps contre des canaux potassiques qu'on appelle shakers, qui ont été mis en évidence chez la drosophile, et qui sont voltage-dépendants. Par immunocytochimie, grâce à du travail sur l'âme dans les cerveaux de souris, on s'est aperçu que l'encéphalite limbique, qui est une maladie acquise, immunologique, auto-immune, de survenue brutale, elle est due au dépôt d'immunocomplexes, d'immun complexes, sur ces canaux, KVL 1 à 6. Cette encéphalite limbique nous a fait découvrir l'existence et l'importance de... Vous voyez, c'est assez récent quand même, Brenne 2006, par M. Cléopa, c'est son nom. Cette encéphalite limbique nous a fait découvrir l'existence de canaux potassiques voltage dépendants, et je cite, ce sont des citations, qui jouent un rôle majeur dans la régulation de l'excitabilité des neurones de l'hippocampe. Autrement dit, il y a là un intermédiaire, un petit peu comme le clavier sur le piano, qui est l'intermédiaire entre le piano et le pianiste, si vous voulez. Il y a un intermédiaire qu'on ne prenait pas très en compte, qui est maintenant de plus en plus décrit, et qui est fait de ces canaux potassiques voltage dépendants, appelés shakers, et qui constitue un intermédiaire non seulement morphologique, mais un intermédiaire physiologique entre les structures nerveuses et puis l'environnement. Bon, on a décrit maintenant six types de ces canaux, shakers, et dans l'encéphalite limbique, c'est surtout le KVL1 qui est présent. Dans la maladie de Morvan, c'est le KVL2. Mais ce qui est le plus étonnant, où siègent ces canaux? Surtout, ils sont surtout répartis dans la zone CA1, CA3 et GD, là où précisément siègent les IP. Voilà. Alors pour terminer, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ces chefs-d'œuvre qui viennent de la bibliothèque de l'Académie de médecine et qui m'ont été aimablement sortis et photographiés par notre bibliothécaire, qui sont des gravures sur cuivre de Ramon y Cajal, et où vous voyez où vous voyez les afférences de la corne d'amont, les fibres moussues, ce sont de véritables chefs-d'œuvre. Et je me permets cette conclusion qui est un peu hypothétique. Il y en a tout au moins une partie qui est hypothétique. L'ictus amnésique idiopathique est un syndrome clinique transitoire et bénin, ne touchant que la mémoire épisodique. Il est en rapport avec une anomalie unilatérale ou bilatérale, située dans la zone C1 de l'hippocampe. J'aurais peut-être dû mettre « peut-être », j'ai mis « pouvant ». Pouvant peut-être, il aurait fallu mettre. Être favorisé par diverses causes entraînant, par l'intermédiaire des canaux potassiques, un dysfonctionnement des cellules pyramidales impliquées dans la mémoire.
Cette séance de l'Académie des sciences consacrée à la mémoire avait lieu le 3 juin 2008 à l'Institut de France. Merci de l'avoir suivie, mais restez à l'écoute de Canal Académie et poursuivez sur ce sujet passionnant de la mémoire et du cerveau en téléchargeant toutes nos émissions en compagnie de Stanislas Dehaene, Jean-Pierre Changeux ou encore Francis Eustache. Elles sont en libre écoute sur notre site www.canalacademie.com. Merci une nouvelle fois de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles émissions. Thank you.